Et on commence avec cette étude parue dans la revue Nature. Les résultats de la plupart des études de corrélation par IRM ne seraient pas fiables.
Oui, grâce aux IRM, grâce à l'imagerie cérébrale, nous pouvons faire des études d'association à l'échelle du cerveau. C'est-à-dire qu'on peut trouver des corrélations entre la structure cérébrale et des capacités cognitives ou des comportements psychopathologiques. Cette équipe américaine a voulu voir quel était l'impact de la taille d'un échantillon, du nombre de participants dans une étude, sur l'importance des corrélations. Est-ce que l'on retrouve les mêmes résultats si on fait varier le nombre de participants d'une même analyse? Et selon eux, ce type d'étude est réalisé avec trop peu de participants pour obtenir des résultats fiables. Les travaux avec 2000 sujets avaient seulement 25% de chances d'avoir des résultats réplicables. Ce papier illustre à nouveau la crise de la reproductibilité qui touche les sciences. Thibaut Fiollet est vulgarisateur et doctorant à l'université Paris-Saclay en statistiques appliquées à la santé.
Pour évaluer l'impact de la taille de l'étude pendant les populations d'analyse, en fait, ils sont partis d'une analyse de départ sur 3900 participants et en fait, ils ont répliqué cette analyse dans des sous-populations avec un échantillonnage aléatoire. Donc en fait, on a resélectionné des personnes de cette étude, mais avec des plus petits effectifs, donc qui variaient de 25 personnes, 33 jusqu'à 1000 et 3000 personnes. Pour chacune de ces tailles d'études sélectionnées, ils ont répliqué 1000 fois les analyses, ce qui a permis en fait de voir si on retrouve les mêmes corrélations ou pas. Et ce qui permet en fait de dénombrer des fausses corrélations positives, donc des faux positifs ou des faux négatifs. Et du coup, ils ont constaté que dans les études simulées, plus la taille de la population d'études était faible, plus le risque de faux positifs et de faux négatifs était important et plus la probabilité de réplication de l'étude était faible. Par exemple, dans les petites études, il y avait une chance sur deux que même la direction de la corrélation soit fausse, c'est-à-dire qu'on ait une association positive ou négative. Également, ils ont constaté que dans les études avec 25 participants, ils pouvaient avoir des corrélations assez variables. Donc en fait, la corrélation, ils l'ont mesurée avec un indicateur R qui varie en gros de moins 1 à 1 pour une corrélation parfaite. Et du coup, 0, c'est une corrélation nulle. Ils ont constaté qu'on avait une variabilité élevée de ces coefficients de corrélation dans les petites études. Alors que dans les études avec des grands effectifs, on avait des forces d'association qui étaient plus petites, donc des R qui étaient plus petits. Au final, ils recommandent du coup d'avoir des tailles d'échantillons le plus large possible pour limiter ce nombre de faux positifs et faux négatifs et en fait ne pas avoir des associations un peu obtenues au hasard. Mais il signale également dans le papier que c'est également important d'avoir malgré tout des études de petite taille puisque dans certaines situations on ne peut pas faire autrement. Si par exemple on veut étudier l'effet d'une lésion sur le cerveau ou des états cliniques assez rares, et ben on peut pas avoir plein de patients avec ces états cliniques assez rares, donc on fait un peu avec les données qu'on a aussi.
Voilà, et puis si vous pouvez retrouver comme chaque jour cette étude publiée donc dans la revue Nature, on vient de vous poster le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc.